Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre de nos émissions consacrées au rapport du Sénat, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Canal Académie Madame Monique Papon, vice-présidente du Sénat, sénateur de la Loire-Atlantique. Madame le sénateur, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie. Madame le sénateur, vous êtes membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication qui a succédé, je crois, à la commission des affaires culturelles du Sénat. Vous êtes aussi membre de la commission des affaires européennes du Sénat. Et vous avez animé en 2008, avec le sénateur Pierre Martin, un groupe de travail sur la scolarisation des jeunes enfants. Ce groupe de travail a entendu de nombreux acteurs et partenaires du secteur de la petite enfance et de l'éducation. Vous avez été aussi, je crois, professeur d'histoire. Et vous êtes donc rapporteur de ce rapport du Sénat sur l'accueil des jeunes enfants pour un nouveau service public qui a été publié en octobre 2008 à la suite du groupe de travail que vous avez animé. Ce rapport, dont je recommande la lecture à nos auditeurs, est une mine d'informations sur le rôle de l'école maternelle, son histoire et son évolution depuis le 19e siècle. Il contient des données statistiques notamment tout à fait intéressantes et inédites. Madame le sénateur, merci de bien vouloir aujourd'hui éclairer nos auditeurs qui se trouvent en France et à l'étranger sur cette question de la scolarisation précoce qui préoccupe à la fois les familles et les enseignants et qui est actuellement l'objet de controverses parfois vives. Ce sujet est à la frontière de deux politiques publiques, celle de la famille et celle de l'éducation nationale. Quels en sont les enjeux? Quel est votre constat? Quelles sont vos recommandations? Voici toutes les questions que nous allons évoquer au cours de cette émission. Merci encore de votre présence.
Oui, bonjour madame. Merci de m'accueillir à Canal Académie. J'en suis très honorée et très heureuse de pouvoir un peu expliquer à vos auditeurs le travail que nous avons réalisé au Sénat dans le groupe de travail dont vous avez bien voulu dire quelques mots à l'instant.
Le Sénat s'est donc intéressé en 2008 à cette question de l'accueil des jeunes enfants. Pourquoi ?
Eh bien, vous savez que le Sénat est appelé à traiter différents sujets en séance publique, sujets qui ont été bien sûr travaillés très en profondeur dans les différentes commissions permanentes du Sénat. Mais le Sénat peut également demander que soient créés des groupes de travail, des missions d'information ou des commissions d'enquête sur un sujet particulier. Je suis au Sénat membre donc de la commission des affaires culturelles et éducatives. Donc le Sénat nous a demandé, la commission concernée nous a demandé de nous pencher sur l'accueil de la petite enfance qui, comme vous venez de le dire, est un sujet assez controversé dont nous allons parler maintenant.
Alors vous avez animé donc en 2008, pendant toute une partie de l'année 2008, au moins 6 mois je crois, un groupe de travail sur la scolarisation des jeunes enfants. Ce groupe de travail comprenait nombre de sénateurs, je crois de la majorité de l'opposition. Pouvez-vous nous dire quels étaient ses objectifs et quelle est la démarche qu'a suivi le groupe de travail?
Alors en effet, l'objectif de ce groupe de travail, c'était de dresser un état des lieux en France, de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, et de s'interroger sur la pertinence en termes d'accueil et d'avenir scolaire d'une entrée si précoce à l'école. Alors, comme vous venez de l'indiquer, le groupe de travail dont j'ai été le rapporteur avec mon collègue Pierre Martin, sénateur du Nord, nous étions entourés de quelques sénateurs qui représentent toutes les philosophies, tous les groupes politiques qui sont représentés au Sénat, bien sûr. Nous avons mené une réflexion qui a duré, plus de 6 mois. Et au cours de cette réflexion, nous avons auditionné, on peut dire, presque tous les professionnels de la petite enfance, de l'éducation, de l'école maternelle. Nous avons entendu des chercheurs, des médecins, des pédopsychiatres, bien sûr, des représentants des parents d'élèves et même des représentants, bien sûr, des familles. Et nous avons visité, nous ne sommes pas restés dans nos fauteuils du Sénat, nous avons visité des établissements et nous avons visité en particulier une classe de très petites sections dans une école maternelle située en zone d'éducation prioritaire, en ZEP, comme on dit, à Gennevilliers. Donc, ça a été un travail très intéressant d'audition et de visite pour pouvoir nous faire une idée précise de cette scolarisation très précoce.
Donc, le groupe de travail s'est réellement rendu le terrain.
Ah oui. Bah oui, nous le souhaitions vraiment.
Alors, votre rapport retrace les origines de l'école maternelle en France. C'est tout à fait intéressant puisque je crois que l'école maternelle trouve ses racines au début du 19e siècle. Pouvez-vous assez rapidement nous les rappeler et surtout nous indiquer peut-être les raisons de ce qui est une exception française, l'école maternelle, une exception et peut-être aussi une chance puisque les pays étrangers parfois nous l'envient.
Oui, vous avez tout à fait raison. La France est une exception, évidemment, avec la Belgique. C'est le seul pays qui a proposé d'accueillir dans ses écoles maternelles les enfants à partir de l'âge de 2 ans. Mais sa spécificité trouve son explication dans notre histoire de l'école maternelle. Il faut remonter à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, en rappelant d'ailleurs la mémoire d'une personne assez emblématique. C'était Pauline Kergomar, qui avait comme titre, à l'époque, mais je vais l'expliquer, elle était inspectrice générale des salles d'asile. Alors, qu'est-ce que c'était ces salles d'asile? Il faut se rappeler que nous étions en pleine période d'industrialisation et qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient livrés un peu à eux-mêmes, des enfants pauvres, dans ce contexte d'industrialisation et qu'il fallait alors suppléer à l'absence des parents et offrir à ces enfants un lieu d'accueil et des moments d'éducation. C'est ainsi que sont nées les premières écoles maternelles. Aujourd'hui, la maternelle en France, elle est considérée comme une passerelle entre la famille et ce qu'on appelle la grande école. Mais elle était à l'époque où Pauline Kergomar l'a proposée, c'était réservé à une toute petite partie de la population. Alors que dès 1950, c'est-à-dire les années d'après-guerre, il y a eu, comme on sait, une poussée démographique. Et à ce moment-là, il y a eu une demande très forte pour l'entrée à l'école maternelle. Ça, c'était les années 1950, mais dès 1990, alors, parallèlement, l'âge d'entrée à l'école maternelle s'est abaissé. Et au début des années 90, on peut dire que tous les enfants de 3 ans ont été définitivement scolarisés. Voilà, c'est une histoire tout de même encore assez récente.
Au fond, si je comprends bien, l'école maternelle au départ, enfin, ou ce qui en faisait office, était destinée aux enfants pauvres et nécessiteux, à l'époque de la révolution industrielle, avant de s'adresser, et notamment dans l'après-guerre, à tous les enfants. Et progressivement, depuis les années 50, l'on a assisté à un abaissement l'âge de la scolarisation. Oui. C'est-à-dire que dans les années 50, les enfants entraient à l'école, je pense, vers 4 ans, puis ensuite à 3 ans.
Ce qui arrive maintenant, c'est que, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est pas partout, puisqu'il y a des grandes différences avec les territoires, maintenant à 2 ans.
Voilà. Alors, quel est le rôle de l'école maternelle? Vous avez parlé de passerelle. Répond-elle bien à ses missions? Pensez-vous qu'elles doivent évoluer? Comment?
L'école maternelle a une mission essentiellement éducative. Et ce que je voudrais vous dire d'emblée, avant qu'on aille plus loin encore dans le débat, c'est que notre groupe de travail ne s'est pas penché uniquement sur l'école maternelle, mais sur l'ensemble des modes de garde. Ce qui est certain, et c'est ce que je vous redirai sûrement en conclusion tout à l'heure, c'est que l'école maternelle garde et doit garder toute sa place parce que l'école maternelle, c'est elle qui fournit les premiers éléments de base fondamentaux de la connaissance, les premiers éléments de lecture, l'écriture, le calcul. Elle permet aussi une première socialisation, incontestablement. Alors, nos travaux ont montré que ce rôle de l'école maternelle était important. Maintenant, pour les plus petits, on s'est rendu compte que c'était un peu confus, oscillant entre un lieu d'apprentissage, un lieu d'accueil et un lieu de soins. Mais elle fournit aux familles un mode de garde intéressant, et c'est là toute l'ambiguïté de la maternelle.
Un mode de garde intéressant parce que gratuit aussi.
Voilà.
Et donc, toute l'ambiguïté de l'école maternelle, c'est au fond, à la fois, elle est là et elle doit avoir un rôle éducatif, transformer, je crois, vous le dites dans votre rapport, l'enfant en élève, oui. Ou faire passer oui. De l'enfant à l'élève. Oui. Mais elle a aussi, souvent, et pour les plus petits d'entre eux, un rôle de garde.
Voilà. Elle fait passer, oui, vous disiez de l'enfant à l'élève, on va faire passer l'enfant du grand bébé au stade du petit écolier. Et c'est quand même un bouleversement important pour l'enfant.
D'où les difficultés que vous évoquez.
Voilà.
La scolarisation précoce dès 2 ans fait l'objet, notamment actuellement, d'un débat de société, parfois animé. Pourquoi un tel débat et quels sont les enjeux, au fond, autour de ce débat de la scolarisation précoce ?
Vous savez, ce débat autour de la scolarisation précoce, ce n'est pas nouveau. Il émerge régulièrement et il oppose souvent ceux qui pensent que l'école peut tout et le plus tôt possible et ceux qui estiment qu'il faut laisser du temps à l'enfant pour se construire sur le plan psychique et affectif. Nous avons été très frappés dans nos auditions lorsque nous avons entendu Madame Claire Brisset, qui est l'ancienne défenseure des enfants, et qui nous a dit à la fin de l'entretien, surtout respecter le temps du bébé. Et ça nous est resté pendant tout le temps de nos entretiens comme un leitmotiv, respecter le temps du bébé. Car en effet, il y a une...
Il ne faut pas brûler les étapes.
Voilà, il y a une très grande hétérogénéité psychique et physiologique chez un enfant de 2 à 3 ans. On ne peut pas lui faire faire à 2 ans ou à 2 ans et 2 mois ce que l'on va faire à 3 ans et quelques mois. C'est très différent. Différentes études montrent que, contrairement à ce que pensent certaines personnes qui nous ont dit « la scolarisation précoce est importante pour le devenir scolaire de l'enfant », eh bien non, il est prouvé dans toutes les statistiques, dans toutes les études, que ce n'est pas exact, car... Certains pédopsychiatres et certains enseignants nous ont dit lorsque l'enfant a commencé trop tôt, très tôt, eh bien, il est déjà usé par l'école quand il arrive à l'école élémentaire. Il est usé par l'école. Alors, c'est assez grave. Il ne faut peut-être pas le mettre dans une structure où il, de façon trop précoce, où il risque de ne pas saisir ce qu'on va lui demander.
Donc, d'après vous, cette scolarisation précoce n'est pas un facteur de réussite scolaire ?
Et non, ce n'est pas un facteur de réussite scolaire.
Et ce serait même l'inverse.
Ça pourrait être l'inverse. Alors, on ne peut pas faire de généralité, mais dans toutes les auditions que nous avons eues, c'est plutôt ce qui ressort. Et les critiques ont été beaucoup plus nombreuses que les approbations pour cette scolarisation précoce.
Votre rapport souligne aussi de fortes disparités territoriales entre villes et campagnes, entre les régions, les territoires. Quelles sont au fond ces disparités et comment s'expliquent-elles ? Pouvez-vous nous en parler ?
Excuse-moi, je voudrais revenir une minute sur ce que j'ai dit tout à l'heure, non pas pour le contredire, mais au contraire pour l'appuyer. Lorsqu'on pense à une scolarisation précoce pour les enfants dans la tranche d'âge des 2 ans, il faut savoir que l'enfant de cet âge a ses propres rythmes. Il a ses propres rythmes, il a des besoins particuliers. Il a besoin souvent de dormir à 2 moments de la journée. Il doit trouver un adulte attentif pour bénéficier d'une relation privilégiée avec lui. Il a besoin d'un espace individuel pour se mettre à l'écart, pour se mouvoir en toute liberté.
Et donc l'école maternelle ne vous paraît pas adaptée à ces besoins-là ?
L'école maternelle n'est pas toujours adaptée aux besoins de cet enfant de 2 ans, quelquefois par ses locaux, par le nombre d'élèves dans la classe qui est très important, car dans les classes et les jardins d'éveil dont je vous parlerai tout à l'heure, on réduit le nombre d'enfants pour pouvoir s'en occuper plus étroitement, car c'est l'enfant de 2 ans et quelques mois, si vous voulez, c'est un enfant curieux, mais sa capacité de concentration est très très faible. Et cela, il faut en tenir compte. Alors, je réponds maintenant à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Je suis revenue là-dessus parce que
ça me paraissait important.
C'est vrai qu'il y a des grandes différences territoriales. On peut s'étonner qu'il y ait ces disparités territoriales.
Ces disparités, en fait, portent sur le nombre d'enfants de moins de 3 ans scolarisés.
Absolument. Alors, il y a de grandes différences. On a pu le constater par les études que nous avons faites. On trouve les taux les plus élevés d'enfants scolarisés de façon précoce en Bretagne, dans le Nord, dans le Massif central et dans ma région, dans les Pays de la Loire. En revanche, vous avez des régions comme l'Île-de-France, comme l'Alsace, comme le Sud-Est, qui se situent en dessous de la moyenne nationale. Et je donnerai à titre d'exemple, nous sommes dans l'Académie de Paris, et bien dans l'Académie de Paris, il y a moins de 6% des enfants de moins de 3 ans qui sont scolarisés, tandis que dans celle de Rennes, et bien on scolarise environ 50%. Alors, on a cherché des raisons à ces disparités territoriales. Est-ce que ça tient à des données démographiques? Est-ce que ça peut tenir aussi à un faible taux d'équipement en crèche?
En crèche, oui. À Paris, il y a sans doute davantage de crèches. Voilà. En Île-de-France,
est-ce qu'il y a une concurrence, puisque nous parlons de l'Ouest pour l'Académie de Rennes, est-ce qu'il y a une concurrence avec l'enseignement privé? C'est possible, mais je pense que c'est essentiellement lié à des traditions locales.
Donc, en Bretagne, les enfants sont scolarisés tôt et ils le sont à la fois dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé.
Oui.
Et donc, vous avez formulé quelques hypothèses, mais au fond, les études menées par le groupe de travail n'aboutissent pas à des conclusions définitives sur ce point.
Non, elles ne peuvent pas aboutir à des... Ce qui est certain, c'est que nous sommes, et nous le redisons formellement et avec une grande force, nous sommes tout à fait partisans de la scolarisation des enfants à 3 ans. Ça nous paraît être tout à fait naturel. Et il faut faire tous les efforts pour que cette scolarisation puisse bien se faire avec des professeurs adaptés, mais peut-être que nous en parlerons. En revanche, il manque une structure intermédiaire entre la crèche et la maternelle, c'est certain. C'est pour ça que nous avons fait des propositions qui ont été d'ailleurs reprises par Madame le ministre de la Famille, Madame Morano.
Avant d'évoquer ces propositions faites par le groupe de travail sur la scolarisation des jeunes enfants, avec Madame Monique Papon, vice-présidente du Sénat, sénatrice de la Loire-Atlantique, je proposerai à nos auditeurs une courte pause et nous reprendrons notre émission dans quelques minutes.
Canal Academy vous propose une rétrospective sur les 7 vies de Prosper Mérimée en compagnie du biographe Pierre Pélissier. Le nom de Mérimée reste attaché aux monuments historiques dont il fut le deuxième inspecteur général nommé par Thiers. Il fut également membre de 2 académies, les inscriptions et belles-lettres et la française, mais en vérité, il mena plusieurs vies. Pour en savoir plus, téléchargez dès maintenant cette émission dans la rubrique « En habit vert ».
Madame, Monsieur, nous sommes avec Madame Monique Papon aujourd'hui, vice-présidente du Sénat, sénateur de la Loire-Atlantique. Et nous évoquons avec elle le rapport du Sénat publié en 2008 sur l'accueil des jeunes enfants pour un nouveau service public. Madame le sénateur, vous avez évoqué les raisons de ce rapport. Vous avez retracé pour nous les origines de l'école maternelle et son évolution. Vous nous avez rappelé le rôle de l'école maternelle. Et vous avez évoqué ce qui fait l'essentiel de ce rapport, cette question de la scolarisation précoce dès l'âge de 2 ans, qui fait l'objet d'un débat de société. Vous nous en avez rappelé les raisons et les enjeux. Vous avez aussi souligné les disparités territoriales existantes. Et je voulais vous demander, au fond, les familles, les parents, sont-ils dans leur ensemble favorables à la scolarisation dès l'âge de 2 ans de leurs enfants ?
Nous avons été très surpris lorsque nous avons consulté une enquête Sopresse qui a été menée pour le magazine qui s'intitule Parents. Cette enquête a eu lieu en 2006. Et les parents ont été interrogés sur cette question de la scolarisation précoce. Eh bien, il faut savoir qu'auprès de mamans d'enfants qui ont moins d'enfants de moins de 2 ans, seuls 35% des mères étaient favorables à une généralisation de l'accueil des enfants de 2 ans à l'école. Et pourtant, tous ces parents qui ont été enquêtés, si l'on peut dire, recherchent une structure d'accueil pour leur enfant. Mais ils ne pensent pas que c'est la scolarisation précoce qui va résoudre les questions qui concernent ceux qu'ils considèrent encore comme des bébés.
Et cette enquête a été réalisée au niveau national.
Au niveau national. Oui, un magazine bien connu, le magazine Parents.
Votre groupe de travail préconise donc d'autres formes d'accueil des jeunes enfants, autres que l'école maternelle, et en particulier ce que vous appelez des jardins d'éveil. Pourquoi ? Quel serait le rôle de ces jardins d'éveil ? Quelles seraient leurs modalités, leur fonctionnement, voire leur financement ? Pouvez-vous nous éclairer là-dessus ?
Au cours des nombreuses auditions auxquelles nous avons participé pendant toute cette année 2008, nous avons donc perçu la nécessité de créer et d'offrir aux familles une nouvelle structure d'accueil destinée aux enfants de 2 à 3 ans. Nous l'avons baptisée, parce qu'il fallait bien la baptiser, jardin d'éveil. Nous aurions pu trouver une autre formulation, ça reste à inventer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut, avec les différents partenaires de la petite enfance et de l'éducation, trouver un lieu adapté au développement du jeune enfant. Et c'est pourquoi nous avons proposé que soit menée une réflexion autour de la création de cette nouvelle structure. Ces jardins d'éveil prendront la forme d'une expérimentation. Ces jardins d'éveil ont été visités par la ministre de la Famille, Madame Morano. Il y en a dans le Tarn-et-Garonne, ils sont bien connus. Il y en a dans la Marne. Dans mon propre département, à Orvault, nous en sommes encore au stade de l'expérimentation. Ce n'est pas encore définitif, mais c'est en bonne voie de se réaliser. Donc, il y a des normes d'encadrement qui sont évidemment différentes de celles des crèches et qui sont évidemment différentes de la maternelle, car des structures comme celle-là nécessiteront un personnel adapté à la toute petite enfance, hein, des éducateurs de jeunes enfants, vont nécessiter des locaux particuliers. Dans les structures que j'ai visitées, qui pourraient servir de lieu d'accueil pour ces jardins d'éveil, évidemment l'idéal, ce serait d'avoir un local qui soit proche de la future maternelle pour que l'enfant puisse passer du jardin d'éveil à la maternelle sans qu'il y ait de bouleversement,
de rupture
et de bouleversement dans sa vie. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'il y ait des locaux disponibles.
Mais en quoi ces jardins d'éveil sont-ils différents des crèches, enfin des dernières années de crèche ou des premières années de maternelle ? Enfin, c'est une structure intermédiaire.
Alors, l'école maternelle, c'est déjà l'école. Hein, c'est déjà, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être presque un petit écolier. Alors, le petit écolier de 2 ans, mon Dieu, comme disait Madame Claire Brisset, laissons jouer le temps du bébé. Hein.
Laissons-les grandir
et laissons s'épanouir. Mais par rapport aux crèches, c'est très différent parce que la crèche nécessite un personnel plus nombreux. Alors que le jardin d'éveil nécessitera sûrement des éducateurs de jeunes enfants, sûrement moins nombreux, aussi bien formés sûrement, mais sûrement moins nombreux. En tout cas, s'il faut parler du coût, parce qu'il faut toujours parler du coût dans une opération comme celle-là, on a fait cette expérimentation porte sur 8000 places d'accueil en jardin d'éveil. Il faut savoir que ce sera beaucoup moins onéreux pour une municipalité, parce que vont être sollicitées les caisses d'allocation familiale, comme elles le sont pour les crèches, les municipalités et un peu les parents, comme ils le sont dans les crèches, en fonction de leurs revenus. Donc, un enfant en jardin d'éveil coûtera sûrement moins à la collectivité qu'un enfant en crèche.
Oui, mais davantage aux parents qu'un enfant à l'école maternelle.
Oui, parce que l'école maternelle est gratuite. Alors, il faut savoir ce que les parents souhaitent et s'ils sont prêts à faire un effort, comme ils l'ont fait pour l'entrée à la crèche, ils sont prêts à faire aussi un petit effort pour le jardin d'éveil. Je crois que j'ai un chiffre que je voudrais rechercher pour vous le donner, parce que ça me paraissait important. D'abord, une évolution du taux de scolarisation à 2 ans en France métropolitaine et puis dans les départements d'outre-mer. La scolarisation à 2 ans a baissé régulièrement. En 2002-2003, il y avait 32% des petits-enfants qui étaient scolarisés autour de 2 ans. Et en 2008-2009, il n'y en a plus que 18%. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont restés à la maison? Est-ce qu'ils viennent dans les crèches? Mais ces crèches, comme vous le dites, en particulier à Paris, elles sont surchargées et surbookées. Elles le sont aussi en province. Que sont-ils devenus? Il manque donc quelque chose. Et le coût annuel que je cherchais et que je voulais vous donner, c'est que le coût annuel total d'une place de jardin d'éveil est estimé à 7 500 €, alors qu'en crèche, cela revient à 13 000 euros à la collectivité. C'est donc, puisque nous sommes dans une période où il nous faut faire des économies, ça nous paraît aussi très important.
Votre rapport donc préconise les jardins d'éveil, c'est le cœur même de vos recommandations. Vous faites aussi un certain nombre de préconisations pour renforcer, améliorer le rôle de l'école maternelle, puisque vous dites que ce rapport n'a pas du tout pour but de supprimer l'école maternelle, loin de là. Donc, quelles sont vos recommandations, notamment en matière de formation des professeurs des écoles maternelles ?
Alors, nous pensons qu'en effet, l'entrée en école maternelle est un temps très fort pour un enfant. Je vous disais tout à l'heure qu'il apporte la socialisation, qu'il apporte les éléments de lecture, d'écriture, et tout ça, c'est important. Il faut donc, nous semble-t-il, que les enseignants de ces écoles maternelles aient une formation spécifique pour la toute petite enfance. Pour la petite enfance. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pour ceux qui fonctionnent en ce moment, ils ne sont pas à la hauteur de la situation. Pas du tout. Mais il faut sûrement leur apporter encore davantage de connaissances dans le domaine psychologique du petit enfant.
Oui, ce n'est pas actuellement, ils n'ont pas de formation. Enfin,
dans les écoles normales telles qu'elles existaient, oui. Il n'y a pas une formation spécifique.
Il n'y a pas de formation
spécifique. Il y a une formation du petit enfant. Mais pour l'enfant de 3 ans, c'est tout de même, il y a une spécificité tout à fait particulière et nous pensons que ça doit être développé. Alors, je voulais vous dire également un mot, c'est que madame, un mot sur la question du langage, parce que certaines personnes nous ont dit, dans ces jardins d'éveil ou après en maternelle, il y a une élaboration du langage qui est absolument nécessaire. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, madame Morano nous a indiqué qu'elle avait demandé à un spécialiste de linguistique, monsieur Bentolila, qui est bien connu, que nous avons d'ailleurs auditionné. Madame Morano lui a demandé d'élaborer pour la fin du mois de décembre, c'est donc très bientôt, un projet de modèle d'apprentissage de la linguistique qui devrait être expérimenté ensuite dans les jardins d'éveil. Car il y a sûrement un développement de la linguistique à opérer pour ces tout petits enfants. Jusqu'ici, cette expérimentation n'a pas encore eu lieu. Donc, Monsieur Bentilola est en train de s'y plonger. Pour la fin du mois de décembre, c'est très bientôt.
Je vous remercie de ces précisions parce que le langage est tout à fait important et particulièrement dans cette maison qui est l'Institut de France. Nous nous en soucions tous beaucoup. Est-ce que le jeune enfant, le très jeune enfant, n'apprend-il pas mieux le langage auprès d'adultes, effectivement, que lorsqu'il est laissé au milieu de ses pairs, ce qui est souvent le cas à l'école maternelle, et c'est sans doute aussi un des arguments faveur des jardins d'éveil.
Voilà, c'est pour cela que dans ces jardins d'éveil, où il y aura un personnel moins nombreux, prêt à être beaucoup plus proche de l'enfant et plus proche pour lui parler son langage et l'initier à son langage, l'initier à cette linguistique, que le professeur de l'enseignante maternelle n'a peut-être pas le temps. Dans une classe où il y a 25 ou 30 élèves.
Donc les adultes seront plus nombreux.
Les adultes sont, bien sûr,
plus nombreux.
Ils seront plus nombreux, mais dans des structures plus petites, avec un nombre d'enfants plus limité,
moins nombreux.
Alors, vous me posez une question pour un petit peu, si vous voulez, en guise de conclusion. Car dans notre esprit, il n'est absolument pas question de supprimer l'école maternelle. Nous sommes très attachés à cette école maternelle. Nous savons les services qu'elle rend. Nous comprenons tout le travail que font les enseignants auprès des enfants en maternelle. Donc, une fois encore, il n'est pas du tout question d'y mettre fin. Mais dans nos conclusions, le groupe de travail avait proposé de constituer un pôle au cours de l'accueil de la petite enfance, reposant sur un ensemble de structures éducatives qui s'articulerait, si vous voulez, sur un triptyque fondé sur une approche chronologique du temps de l'enfance. Tout d'abord, destiner en priorité les établissements d'accueil de type crèche collectif ou familiale au seul bébé. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, promouvoir de nouvelles structures d'accueil éducatives pour les jeunes enfants âgés de 2 à 3 ans. C'est ce que nous avons appelé, peut-être improprement, mais autre définition à trouver, les jardins d'éveil. Et puis, et j'en termine avec force là-dessus, enfin, assurer une scolarisation réussie des enfants à partir de 3 ans. Car dans notre esprit, ce qui compte, c'est le devenir de cet enfant, c'est comment il va aborder cette école maternelle, après l'école élémentaire et puis toute sa scolarité à venir. C'est ce but que nous poursuivons.
J'imagine que vous êtes très attentive, vous et vos collègues sénateurs, aux suites données à votre rapport. Vous avez évoqué donc certaines expérimentations dans certaines villes. Est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats, un premier bilan ? Est-ce que ces expérimentations ont vocation donc à s'étendre ? Peut-être donc en conclusion, quelles perspectives voyez-vous pour les mois et les années à venir ? Et pensez-vous que le Sénat continuera à suivre avec grande vigilance cette question de la petite enfance ?
Alors, nous espérons que le rapport que nous avons rédigé, qui nous a demandé beaucoup de travail et qui a demandé beaucoup de temps aux personnes que nous avons auditionnées, et que nous remercions d'ailleurs, j'espère qu'il ne restera pas dans les cartons. Nous avons l'intention de continuer à le suivre. Le ministère de la Famille y est très attentif. D'ailleurs, ça va tout à fait dans le sens de ce que souhaite le président de la République, puisque le président Sarkozy a demandé qu'il y ait une multiplication, si l'on peut dire, des modes de garde pour pouvoir répondre à cette démographie dont nous nous réjouissons en France. Bon, l'expérimentation, elle ne peut pas encore être finie, puisque la rentrée s'est faite au mois d'octobre. Donc, nous n'avons que 2 mois. Il faut attendre au moins 1 an pour le vérifier. Mais vous pouvez être sûr que nous allons continuer avec notre groupe de travail à voir comment cette expérimentation se poursuit dans les endroits où elle a commencé et que si l'expérimentation est, comme nous l'espérons, positive, eh bien, on pourra généraliser ce type d'accueil pour le plus grand bien de nos tout-petits.
Madame le sénateur, merci pour ces précisions, cet éclairage sur un sujet important, un sujet de société qui intéresse certainement tous nos auditeurs. Comment accueillir les jeunes enfants, comment respecter le temps du bébé, le temps de l'enfant, le temps de l'élève. Et va-t-on vers un nouveau service public en matière de petite enfance ? Nous le saurons dans les mois qui viennent. Et donc, nous aurons sans doute l'occasion peut-être d'en reparler avec vous. Donc, à nouveau, merci. Pour nos auditeurs, je leur recommande la lecture du rapport numéro 47, qu'ils pourront trouver sur le site du Sénat et sur le site de Canal Académie. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.